vais passer à la présentation de notre conférencier de ce soir, Alain Navarro, qui est professeur donc à l'INSA, directeur scientifique du réseau coopératif de recherche sur les déchets. Quelques mots sur son parcours. Il est ingénieur INSA, option chimie industrielle, docteur en sciences, professeur émérite donc à l'INSA, responsable de l'option énergie, économie, environnement, cofondateur du DEA Sciences et Techniques du déchet, concepteur du master Management de l'environnement, cofondateur du laboratoire de chimie appliquée devenu en 1995 laboratoire d'analyse environnementale des procédés et systèmes industriels et directeur donc de ce laboratoire de 1991 à 1999, chargé de l'enseignement de la thermodynamique, de l'environnement industriel et de l'écologie industrielle en formation initiale et continue, à l'INSA et dans de nombreuses universités et organismes en France et à l'étranger, fondateur et directeur scientifique du réseau coopératif de recherche sur les déchets, donc c'est RECORD, qui regroupe des industriels de différents secteurs et les pouvoirs publics, l'ADEME, pour développer des programmes de recherche pluridisciplinaires sur les déchets. Il est membre du conseil scientifique de l'ADEME, de l'INRIS et de l'Institut franco-allemand de recherche sur l'environnement. Donc je vais désormais lui céder la parole pour une petite heure, 50 minutes, et après vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, merci.
Merci. Bien. Mais avant d'applaudir, comme m'a dit mon collègue hier, attendez que... Tout ce qu'elle vient de dire est à peu près exact, si ce n'est qu'il faudrait rajouter « ex » avant, puisque de tout ça, je ne suis plus rien. J'étais effectivement un des premiers professeurs de déchets en France, à l'université, qui en comporte d'ailleurs de nombreux. Mais maintenant, je suis devenu à mon tour un déchet de professeur. Donc, pour ceux qui ont suivi l'ensemble du cycle, tout ce qui s'est passé au préalable et que j'ai eu l'occasion de visionner, mon discours, disons, enfin les propos que j'ai l'intention de vous tenir, risquent d'être un peu différents de ce que vous avez entendu, aussi bien de la part de l'ADEME que d'autres intervenants, philosophes par exemple, dans la mesure où je vais vous proposer, pendant cette petite heure, un voyage dans la matière. Hein. On va peut-être abandonner beaucoup le virtuel pour entrer dans le réel. Alors, ça a commencé avec la ville hier, mais elle avait quand même un côté virtuel par moment. Là, on va rentrer dans la réalité des problèmes. Et j'espère que ce parcours vous amènera à un regard un peu différent sur le problème des déchets et vous amènera également à poser des questions parce que on n'est pas forcément obligé d'être d'accord là-dessus. Ça ne veut plus partir ? Le plan de présentation, donc je vais commencer par un petit préambule rapide sur le mot déchet. Ah, pourquoi ça ne marche pas ? Ah, pardon. Ça y est, j'ai compris. Je vous parlerai ensuite en quelques mots d'une approche. Quelles sont les conditions d'une approche scientifique du problème des déchets ? Je vous parlerai ensuite de cet objet qu'est le déchet et de la difficulté qu'on a à le définir. Je passerai ensuite au ce que j'ai appelé les fatalités du déchet, c'est-à-dire essayer de vous convaincre qu'il serait illusoire d'imaginer qu'il n'y en ait plus un jour. Un parcours sur leur photo, leur carte d'identité. Les différentes stratégies de traitement que l'on est susceptible de mettre en œuvre. Et puis, je positionnerai le problème des déchets par rapport aux différents éléments de la notion de développement durable. D'ailleurs, j'aurais voulu aimer appeler cette conférence le développement hors durable, mais mon ami François Klein a déjà pris le titre il y a quelque temps et je ne peux pas le lui voler. Donc, je dirais le déchet durable que je confronterai aux différents éléments du développement durable en rappelant que le développement durable, c'est l'environnement, mais c'est aussi l'économie et la société et que peut-être on a trop privilégié la notion environnement dans le développement durable au détriment parfois de la notion de société, de la notion d'économie, et que le déchet est un bon moyen de s'en souvenir. Et évidemment, je conclurai. Alors, en préambule, j'ai choisi une formule que Marcel Mauss aurait prononcée, je dis aurait parce que c'est rapporté par Jacques Soustelle dans un ouvrage. Ce sociologue, anthropologue très connu, a dit une fois au début d'un cours, ce qu'il y a de plus important à étudier dans la société, ce sont les tas d'ordures. Donc, j'ai sauté sur l'occasion pour lui kidnapper sa citation et tout de suite vous plongez dans l'idée que l'ordure ou le tas d'ordures, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est quelque chose même de si particulier que, il n'y a pas plus de, on va dire, 100, 150 ans, mais beaucoup moins en réalité, que le déchet est passé du domaine du littéraire, du philosophique, du religieux éventuellement, rentrer dans le domaine de la science. Le déchet, à travers les déclinaisons, il y a beaucoup de bouquins qui ont été écrits là-dessus, beaucoup de thèses qui ont été soutenues, beaucoup de pièces de théâtre, d'œuvres d'art qui ont été réalisées sur la base du déchet. Le déchet était quelque chose qui faisait partie de la société, qui en général en donnait l'aspect négatif, hein. J'ai retrouvé une citation de Bossuet, l'évêque de Meaux, qui avait dit « Je veux bien faire cette visite pour réparer ce qu'il y aurait de déchets en la perfection religieuse. » Donc vous voyez que le déchet arrive même à rentrer dans des lieux où on ne l'imaginait pas. Je me trompe toujours dans ma... Voilà... tous les mots qui sont venus derrière, ordure, ordurable, détritus, tout ça, ont occupé le devant de la scène. Avec en général une connotation très négative, très péjorative, associée en général au détritus, au déchet, à l'excrément, au déchier, hein, comme on pourrait dire. Mais en même temps, hein, des fois, de l'or, par exemple, marcher sur une crotte de chien le matin peut vous permettre de devenir riche et de gagner la loterie. Donc il y a quand même un peu de l'espoir dans la fréquentation des déchets. Et puis, je vous dis, il y a 100, 150 ans, les déchets sont devenus un objet de science. Alors pourquoi les déchets sont devenus un objet de science? Ils le sont devenus pour plusieurs raisons. La première raison... Elle tient au fait que les scientifiques ont pris conscience de l'existence de cycles biogéochimiques et que la nature tournait. Ce n'était pas uniquement des êtres séparés, qu'il y avait des relations entre tous les êtres vivants, animaux, végétaux, humains. Et ces cycles des éléments, cycles du carbone, cycles de l'azote, cycles du soufre, cycles de l'oxygène, tous ces cycles qui tournaient, étaient un trépied avec des producteurs, des consommateurs et des décomposeurs, et que la nature ne savait pas et ne sait toujours pas fonctionner si ces trois pieds ne sont pas en équilibre, en état de remplir leurs fonctions. L'avantage qu'a la nature déjà sur nous, c'est que l'étage décomposeur, le troisième, est au moins aussi important que celui du producteur ou celui du consommateur. On parle beaucoup depuis quelques années de la disparition dramatique des vers de terre, surtout en Bretagne, qui empêcherait le lisier d'être assimilé par la terre. Ce serait la ruine de l'agriculture si les vers de terre disparaissaient. Voilà, c'est l'exemple où le décomposeur est beaucoup plus important des fois que le producteur ou le consommateur. La deuxième raison, elle tient dans la révolution industrielle. C'est-à-dire, il y a 150 ans, hein, l'arrivée explosive, je dirais, de l'énergie, charbon d'abord, pétrole ensuite, puis gaz, et rajoutons l'uranium, a fait que l'homme s'est trouvé doté de moyens colossaux qui lui ont permis de développer à l'infini première révolution industrielle, deuxième révolution industrielle, troisième révolution industrielle avec les transports, et que donc plus rien n'était une limite à l'expansion de la production. Et ça a conduit évidemment à ces fameuses montagnes de produits qui se sont accumulées un peu partout, de déchets industriels dans un premier temps, puis urbains ensuite. La troisième raison vient de ce que À partir du pétrole surtout, mais déjà au début à partir de végétaux, on a développé une chimie de synthèse. C'est-à-dire que l'homme a réussi à partir d'une matrice qui est d'une richesse exceptionnelle, qui est le pétrole, a réussi à fabriquer des plastiques, des caoutchoucs, des tissus, des textiles, des colorants, des médicaments, des peintures, des colorants, des vernis. Tout le monde du matériau a complètement explosé avec le pétrole. Et il n'y a pas que l'aspect énergétique. Et l'ensemble de ces nouveaux produits qui sont arrivés sur la planète, si j'ose dire, indépendamment du côté quantitatif, c'est-à-dire des quantités énormes qui ont été déversées, a posé un premier grand problème. C'est que, aussi utiles étaient-ils, ces produits, la nature, dans sa grande complexité, n'a jamais su les gérer. Ils ne faisaient pas partie de la famille. Donc, ils étaient là où on les avait abandonnés. C'est l'absence de biodégradabilité, si vous voulez. Et donc, on a commencé à s'apercevoir que là où on les mettait, ils restaient. Et que, bon, évidemment, par des moyens des fois mécaniques ou par quelques propriétés physiques, ils rentraient dans les systèmes. Et ça a été le grand explosion des pollutions, des toxicités, des écotoxicités et compagnie. Le quatrième élément est celui du développement urbain. Et bon... Hommage doit être rendu en cette ville au préfet Poubelle, qui le premier a compris qu'il fallait faire quelque chose, et c'était pas si vieux que ça, finalement. Et c'est très intéressant, parce que le préfet Poubelle, dont j'ai profité de l'occasion de cette conférence pour m'approfondir un peu sa bibliographie, parce que je ne savais pas grand-chose sur ce monsieur. Sur Internet, il y a des choses très intéressantes sur lui. Il avait pris conscience du risque, c'est la période pasteurienne en fait, il avait pris conscience du risque biologique et donc de la nécessité de préserver la santé des gens en leur épargnant le risque biologique. Parce que l'ennemi sanitaire, c'était le microbe, c'était la bactérie. Et donc il a préconisé l'incinération, ça c'est très intéressant de voir que l'incinération, dont on dira tout à l'heure, les critiques dont elle est l'objet, a quand même été mis en avant pour régler le problème du biologique. Alors c'est très intéressant de voir que maintenant, le risque biologique, sauf quand ça arrivait sous forme de grippe porcine ou autre, mais je ne sais plus si on peut appeler ça biologique, est passé au second, voire au troisième, au quatrième plan, et remplacé par le risque chimique. C'est-à-dire qu'on voudrait comparer la situation sanitaire avant et maintenant, en fait, on ne peut pas les comparer parce que la première était sous le règne de la bio, la seconde est sous le règne de la chimie. Et ce ne sont pas du tout les mêmes attaques. Enfin, je dis ça je suis un peu gonflé dans une faculté de médecine, mais enfin, bon, ce n'est pas du tout ni les mêmes attaques, ni les mêmes résultats. Et la dernière, évidemment, c'est la civilisation de consommation avec, évidemment, l'explosion des produits, l'explosion des matières et l'explosion, évidemment, corrélative des déchets. Donc, ces raisons-là ont fait que les déchets sont devenus un objet de science. Et je vous annonce tout de suite ma première remarque, c'est que l'étude des déchets n'est pas une science. J'ai cru ça au début de ma carrière, en 1973, puisque je les côtoie dans mon labo depuis 1973, enfin, avec beaucoup d'autres chercheurs. Et on s'est battu pour dire, il faut, auprès de l'ADEME, on s'est beaucoup battu pour dire, il faut considérer la science des déchets comme une science. Et bien maintenant que je suis à la retraite et que j'ai plus d'impératifs matériels en termes de gestion du laboratoire, je crois que je peux dire, les déchets ne sont pas une science. Mais, toutes les sciences sont nécessaires pour avoir une idée du problème des déchets. C'est-à-dire que c'est le carrefour, les déchets peuvent être considérés comme le carrefour d'absolument toutes les approches possibles, imaginables. Mécaniques, physiques, chimiques, biologiques, juridiques, économiques, sociologiques, psychologiques, psychiatriques, tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre n'importe quelle discipline de la science, à un moment ou à un autre, elle a son mot à dire dans la problématique déchets. Et s'il y a des chercheurs dans la salle qui sont à la recherche de thématiques originales et qui sont intéressés par l'étude de la complexité, je vous propose là un objet remarquable pour les amoureux de la complexité, c'est la poubelle. Je vous signale d'ailleurs qu'en 2009, personne n'est capable de vous fournir la liste des molécules présentes dans chacune de nos poubelles le matin. Il y a du papier, il y a des plastiques, on vous dira des gros trucs, mais on vous dira jamais le nombre de molécules qu'il y a dedans, alors qu'on sait à peu près combien vous avez de gènes dans vos chromosomes. L'approche pluridisciplinaire m'amène aussi à faire une remarque. J'ai vécu cette pluridisciplinarité et je ne l'ai pas vécu forcément de façon toujours très agréable. Je pense que la France, mais pas que la France, je ne veux pas faire la morale du vieux retraité, on n'est pas très très doué pour mettre en place la pluridisciplinarité. D'abord, on aime bien les disciplines quand elles sont pures, respectables et d'autant plus théoriques, d'autant plus valables qu'elles sont théoriques et abstraites. Et quand elles deviennent concrètes, c'est déjà un peu plus dur. Mais alors, quand elles deviennent mélangées, c'est très compliqué. On n'aime pas bien la pluridisciplinarité. Je pense que si on avait l'aptitude académique à créer, par exemple, des sortes d'abbayes de Thélème, ça, c'était un de mes vieux rêves, où pendant un certain temps, on mettrait des gens de différentes disciplines sur un problème pluridisciplinaire, qu'ils aient d'abord le temps d'apprendre à se parler. Moi, j'ai passé des années à apprendre le langage des toxicologues, le langage des biologistes, le langage des thermiciens, le langage... Je ne suis qu'un chimiste, hein, et j'ai appris les langages de tous les autres pour être capable de discuter avec tous les autres. Et là, on saucissonne le problème en discipline, on fait travailler chaque discipline et on fait un bouquin avec l'ensemble des approches et on demande à un expert de faire une synthèse. À mon avis, c'est souvent du temps perdu. Mais bon, il faut le faire. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a sûrement, dans la documentation existante depuis une trentaine, une quarantaine d'années, je pense aux données dont dispose l'ADEME, puisqu'ils sont présents là aujourd'hui, il doit y avoir des sources incommensurables d'informations qui mériteraient d'être réétudiées et réexaminées, ce qui ferait une économie substantielle dans les nouveaux sujets d'études. Alors, troisième point, après cette approche pluridisciplinaire... Alors oui, tout ça pour vous dire aussi, j'oubliais, que moi je suis un chimiste, hein, de formation. Je vous ai dit que je suis ouvert un peu à tous les autres. Mais quand j'en parle, c'est toujours ma formation de base de chimiste qui domine. Et donc l'approche que je vous restitue aujourd'hui, c'est l'approche du chimiste. Alors vous ne m'en voudrez pas, mais c'est congénital, quoi. Je ne peux pas lutter contre cette approche. Et ce problème, il a été repris, il est pris dans l'ensemble des trois grandes disciplines qui sont l'eau, les techniques de l'eau, traitement de l'eau, l'air, traitement de l'air, les déchets, traitement des déchets. Donc j'ai toujours traîné dans ce trépied l'eau, l'air, les déchets qui se partageaient en gros les technologies de l'environnement. Alors je voulais faire une petite différence. L'eau et l'air, c'est quand même conceptuellement, j'entends, conscientuellement, facile à imaginer. L'eau, c'est H2O, et tout ce qui n'est pas H2O n'est pas l'eau, et quand on travaille sur l'eau, on enlève de H2O tout ce qui n'est pas H2O. Éventuellement, si on est un peu vicieux, on en rajoute pour qu'il y ait d'autres propriétés, du gaz ou des colorants, mais la matrice, c'est l'eau. H2O, elle est connue de l'ensemble de la population. Pour l'air, c'est un tout petit peu compliqué, c'est oxygène et azote. Et puis, on rajoute du CO2 et des poussières et des composés organiques volatiles et tout ça. Et donc là, alors, je ne dis pas que les solutions sont simples, au contraire, mais les solutions l'objectif est clair, si j'ose dire. Si l'eau et l'air ne le sont pas, l'objectif, lui, l'est. Par contre, en ce qui concerne les déchets, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Personne n'a pu dire qu'il a... Nous, on pense avoir dans le labo, en une vingtaine d'années, étudié, je ne sais pas, entre 400 ou 500, 600 déchets différents, au moins au niveau de l'analyse. Et je pense qu'on n'a vu qu'un tout petit bout du sujet. Hein. Et entre un déchet de pneumatique et une pomme pourrie, il faut quand même trouver beaucoup de travail intellectuel pour faire des rapprochements scientifiques. Hein. Et donc, c'est un sujet compliqué. Mais finalement, est-ce que c'est le plus dangereux? Je ne suis pas sûr. Parce que si vous prenez, par exemple, vous comparez ça aux manifestations que peuvent avoir certains êtres humains quand ils ne sont pas contents de leur société et qu'ils décident de manifester par la grève. Vous remarquerez qu'il est assez courant qu'ils commencent par une grève de la faim, qui peut durer assez longtemps à condition de boire et de respirer. Que s'ils attaquent la grève de la soif, là, ça commence à devenir beaucoup, beaucoup plus compliqué, mais ça peut tenir encore quelque temps. Par contre, de la grève de l'air, de la respiration, j'en ai encore pas vu. Ça s'appelle, je crois, un suicide, non ? Hein, c'est ça. Bon. Donc, l'eau et l'air, c'est ce qui est le plus important pour la vie de l'homme. le déchet, c'est ce qu'il y a de plus embêtant, en fait, dans la société. Voilà un peu comment je vois la chose. Alors, question maintenant numéro 2. Y a-t-il possibilité d'imaginer une civilisation à zéro déchet? Parce qu'on voit le zéro, c'est bien. Zéro tolérance, zéro nuisance, zéro SDF, zéro chômeur, zéro tout ce qu'on veut. Pourquoi pas zéro déchet? Ben, je dis non. Non, zéro déchet, ça n'existera pas, jamais. Pour 5 raisons. La première, c'est une fatalité biologique. Je ne vois pas comment les métabolismes peuvent être fonctionnés sans qu'ils libèrent un truc. Chacun d'entre vous a qu'à regarder le poids qu'il fait, l'âge qu'il a, dire qu'en gros, il avale 1 kg par jour entre le solide, le liquide et le gazeux, multiplié par le nombre de jours, et vous verrez que ce qu'il en reste, les quelques malheureux 70 kilos qui restent, où est passé le reste. Eh bien, bon, voilà, ce sont ça, les déchets. La fatalité chimique... rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si vous avez une grosse molécule que vous en voulez qu'un petit bout, ben qu'est-ce que vous faites du reste? Si vous en mettez 2 qui se réunissent pour faire une troisième, qu'est-ce que vous faites du 4e membre de la réaction, hein? Et si vous voulez rajouter un chlore, comment... Voilà, donc sans arrêt, sans arrêt. Je peux vous donner un exemple, les pharmaciens, les médecins, qui sont souvent des gens très, très, très sévères en général avec le déchet, préconisent souvent des médicaments dont le principe actif fait que pour avoir une 10aine de grammes de principe actif, on peut aller jusqu'à 2000 à 3000 litres de réactif, hein, pour faire 2-3 grammes de principe de réactif. Donc l'industrie pharmaceutique délivre des quantités invraisemblables de déchets pour faire les principes actifs qui, hélas, qui heureusement, nous sauveront de la mort. Bon, c'est une fatalité technologique. Bon, on ne va pas trop perdre de temps là-dessus. On travaille la matière. On fait un trou. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui était dans le trou? On fait des ronds. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui était pas rond? Et ainsi de suite. Donc, vous aurez sans arrêt des déchets liés au travail technologique. La fatalité environnementale, celle-là, je l'aime bien. C'est une formule que j'apprécie souvent. Plus on veut faire du propre, plus on fait du sale. Il faut bien s'en convaincre, hein. Si on prend 3 douches par jour parce qu'on s'estime un peu sale, on a multiplié par 3 le volume d'eau à traiter, parce que personne n'a dit les deux dernières douches étaient juste pour me rafraîchir, je boirai l'eau demain matin. Donc finalement, la recherche frénétique du propre conduit à l'accroissement du déchet. Et on arrive à une autre cascade, c'est que la volonté d'avoir de l'air pur fait que tout ce qu'on a extrait de l'air devient un déchet. La volonté d'avoir de l'eau pure fait que tout ce qu'on a extrait de l'eau devient également un déchet. Donc nous, on est les malheureux du système. Hein, je défends mon syndicat. On a nos déchets propres, nos déchets solides propres, plus tous les déchets de l'air et de l'eau. Hein. Donc on est presque les sauveurs de la nation. Alors, donc, ma remarque sera de dire, je vais essayer maintenant de vous montrer qu'on peut faire plein de choses avec tout ça, et je préfère qu'on dise, mon objectif, c'est zéro problème, parce qu'il y a des solutions à tous ces problèmes, et ça, ce sera le côté positif de mon intervention, mais zéro problème convient, mais zéro déchet, c'est une utopie. On a vu hier avec la ville, tout ça, qu'il fallait quand même pas trop tangenter l'utopie. Voilà. Oh, j'arrive pas à trouver le sens de rotation de la molette. Voilà. Alors, bon, je passe vite parce qu'on va pas. C'est court, 1 heure. Je passe vite. Alors, on leur a donné plein de noms. C'est très compliqué. Là, je vous en ai donné quelques-uns. Ceux qui voudront, le texte a été déjà fourni. Donc, vous aurez le texte sur Internet, je crois. Je ne sais pas où. Donc, vous aurez tout ça. Les ordures ménagères, les OM, les déchets industriels banals, les déchets dangereux, les déchets d'activité de soins à risque, les mâchefers d'incinération d'ordures ménagères, les déchets d'équipement électrique et électronique, les déchets toxiques et des ménages. Les gens du déchet, comme toutes les corporations, surtout les corporations qui sont un peu agressées, qui se sentent minoritaires, ont vite inventé leur langage codé pour apparaître comme une caste qui n'est pas accessible à tout le monde. Hein. on a besoin d'avoir ces langages codés pour ne pas passer pour des vulgaires péquenots qui parlons comme tout le monde. Hein. J'insisterai là-dessus sur une catégorie et je ferai une remarque avant qu'on aborde un peu plus les ordures ménagères plus tard. Dans un monde qui a beaucoup évolué ces 20 dernières années, sans parler des deux dernières années, où on voit se réduire un peu comme une peau de chagrin l'activité industrielle, il faut voir que ça ne s'est pas accompagné d'une restriction de la consommation des produits industriels. Et que donc, le déchet industriel, moi, je provoque un peu, mais le déchet industriel aujourd'hui, il n'est pas forcément dans les usines, il est dans toutes nos poubelles. Si vous faites l'inventaire de la cuisine, la salle de bain, le garage, le hangar du jardin et l'atelier de bricolage, eh ben, vous avez là, j'ai oublié l'armoire à pharmacie, vous avez là à peu près la quasi-totalité des molécules industrielles susceptibles de provoquer des problèmes. Donc, il semblerait que l'industrie... c'est une façon de regarder la délocalisation. Les déchets de la production ont été exportés, mais les déchets de la consommation ont augmenté. Hein. Et donc là, il y a un transfert des déchets de l'industrie vers le particulier. Et en particulier, des approches comme l'ouverture du monde médical vers les soins à domicile, tout ça a créé un énorme transfert de déchets vers la poubelle de chacun. Et je ne suis pas sûr que ce soit dans les sacs de l'hôpital qui ait le plus de danger par rapport à l'ensemble des sacs de l'ensemble des citoyens. Je passe sous silence les couches-culottes, tous âges. Alors, un deuxième élément dans ces chiffres que je voulais vous signaler, c'est qu'effectivement, on est énormément bloqué sur les déchets ménagers. On a l'impression, moi, depuis que je suis à la retraite, j'écoute beaucoup la radio, je regarde la télé, je lis les journaux, plus qu'avant, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment qu'un seul problème qui est très important pour nous, c'est nos poubelles, nos poubelles, nos poubelles, nos poubelles, nos poubelles, nos poubelles. Alors, sur le plan, je viens vous dire qu'elles sont quand même devenues des fois des petites bombes, mais sur le plan pratique, il faut quand même voir que les déchets ménagers ne représentent que 4% du poids des déchets générés dans le pays, hein, contre 11% pour les déchets industriels, 40% pour le bâtiment et 43% pour l'agriculture. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes. On ne peut pas considérer tous les fétus de paille de l'agriculture et toutes les crottes de lapin au même niveau que tout un tas d'autres déchets métalliques. Mais dans le système, il faut voir qu'il n'y a pas que les déchets ménagers qui sont un problème pour la société. Et qu'il y a beaucoup de transferts qui se font d'un secteur sur l'autre. Alors, des stratégies de traitement. On a notre parc de déchets. Bon, je vous l'ai décrit très sommairement. On pourrait y ajouter une dimension, d'ailleurs, ce que je n'ai pas fait parce que ce n'est pas l'objectif, une dimension administrative et technique. Ils ont tous des noms, des prénoms, des codes, ils sont fichés, il y a une réglementation sans fin. Moi, j'ai eu la chance unique, je pense, pour un chercheur, d'aborder ce problème en 1973. La loi sur les déchets est en 1975 et je l'ai quittée en 2000, alors que maintenant on bricole la loi, mais elle n'a pas vraiment fondamentalement changé. Donc d'avoir fait une carrière en vivant toute l'évolution réglementaire et tout, j'ai passé des milliers d'heures au ministère à rédiger des bouts d'articles sur le déchet ultime, le déchet ci, le déchet là. Je ne veux pas encore perdre du temps aujourd'hui là-dessus, je vais vous laisser en profiter, c'est dans tous les bouquins. Quelle stratégie de traitement avons-nous ? Alors, quand on est face à ce problème, nous, on a dégoté trois grandes stratégies. La première stratégie, c'est de dire, ben, puisque ce produit pose un problème, on l'interdit. On interdit les CFC parce que c'était un gros problème pour la couche d'ozone. On interdit l'amiante parce que c'était... Voilà, on interdit. Ce qui amène à deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'il restera toujours des gens du déchet pour gérer le passif. Hein, moi, j'ai été impliqué dans la gestion du passif des pyralènes et des transformateurs. Il y en a toujours et ça continue toujours à marcher. Donc, il faut régler. Et le deuxième est beaucoup plus pervers et il pourrait nous donner des pistes pour une évolution de la société telle que Alain Mogard l'a voulu hier. C'est que On a souvent supprimé le déchet, c'est le cas des PCB, c'est le cas des fréons dans les bombes aérosols, mais on n'a pas supprimé le service qu'ils rendaient. C'est-à-dire que dans les bombes, il y a toujours autant de bombes aérosols, il n'y a plus de CFC dedans, je veux bien, mais il y a des gaz hydrocarbonés explosifs et inflammables. Donc, le problème de la bombe, c'est devenu celui du fréon, mais le problème du fréon n'a pas fait mettre au rancard la bombe. Hein. Donc il n'y a jamais une réflexion complètement coordonnée entre le déchet et l'usage qu'on en faisait. La deuxième, c'est d'optimiser, d'innover, de créer. Alors ça, c'est toute la nouvelle structure industrielle à mettre en place. Je dirais, ce n'est pas mon problème. Peu à peu, le développement durable est en train de nous donner des pistes en matière de production, des pistes en matière d'éco-conception, des pistes en matière de recherche des toxiques et d'élimination des toxiques. Tout ça, c'est fait et c'est très bien. Et ça, c'est le boulot des gens nobles, c'est-à-dire ceux qui produisent et qui consomment. Moi, j'attends de savoir quels déchets ils vont me proposer. À propos des procédés, et il y a des débats sur la directive REACH et les nouvelles dispositions par rapport aux molécules. Je voudrais aussi vous faire une remarque qui m'a longtemps, que j'ai mis longtemps à comprendre. Alors, je suis un peu lent. C'est qu'il ne faut pas confondre production propre et produit propre. Vous pouvez avoir l'outil de production le plus propre de la planète et fabriquer avec la pire des vacheries pour le consommateur. Je dirais même mieux que s'il existe par hasard sur la planète encore des usines qui fabriquent des produits chimiques pour d'éventuelles guerres qui n'auront sûrement pas lieu, j'espère, il y a tout à parier qu'elles se font, que ces travaux se font avec des techniques d'une propreté inouïe. Donc porter son regard sur l'outil qui produit, c'est bien. Ne pas oublier de porter le regard sur le produit que l'outil nous a livré. C'est quelque chose qui est très, très, pas toujours évident à comprendre. Et puis, il reste après, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Et ça, c'est mon boulot, on va en parler. Alors, première grande voie de valorisation, je vais passer très vite pour qu'on puisse discuter, c'est la valorisation énergétique. C'est-à-dire qu'on peut brûler les déchets qui brûlent bien, on peut les transformer par des mécanismes de pyrolyse ou de thermolyse en d'autres combustibles qui brûleront eux aussi probablement bien, et on peut soit les faire agir la biologie, les méthaniser quand ils sont biodégradables, faire du méthane ou même faire de l'alcool. Donc on rejoint là la filière, par exemple, des biocarburants, du biogaz pour de l'incinération des ordures ménagères, de l'incinération des déchets en four de cimenterie. Dans la période actuelle marquée par des tensions sur l'énergie qui se sont un peu calmées ces derniers mois parce que d'autres tensions sont apparues mais qui réapparaîtront le lendemain où on annoncera la reprise économique, on annoncera, je crois d'ailleurs que c'est fait, la reprise du prix du pétrole. Je dis, il ne faut pas croire que le pétrole va rester gratuit alors que l'économie va repartir. C'est un faux problème. Tout va repartir à la hausse. Et donc, la recherche des calories, la recherche des kilowatts, quand ils ne sont pas produits par les combustibles fossiles, devient, je dirais, presque un impératif national. Les déchets ont leur place. Alors, ils ont leur place avec des difficultés, et dont on pourra parler si vous voulez, mais des difficultés en ce sens que ce ne sont pas des combustibles classiques, qu'il faut prendre des précautions au niveau des fumées, qu'il faut prendre des précautions au niveau des mâchefer, et que, par contre, ils rendent un service parce qu'en même temps, ils nous débarrassent de tout un tas de choses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait en France des farines animales que la crise de l'ESB a laissées sur les bras de la société, nous qui ne mangeons que quelques petits morceaux de viande de l'ensemble de la bestiole, s'il n'y avait pas les cimentiers pour cuire leur ciment avec ces farines animales, ce qui nous arrange à peu près tout le monde. Hein, peut-être pas les maçons, oh, ben, je ne suis même pas sûr. Bon. Bon, alors, si ce n'est pas l'énergie, c'est la matière. Deuxième volet, tout de suite une remarque, pour ne pas rentrer dans les technologies brutalement, tout de suite une remarque, la matière n'a de sens, enfin, la matière ne peut être industriellement traitée qu'avec l'énergie. Énergie et matière sont un couple. Si vous n'avez pas de l'énergie, vous ne transformerez pas la matière. Hein ? Et si vous avez beaucoup de matière et pas l'énergie nécessaire, vous n'y arriverez pas. Et inversement, de l'énergie pour rien du tout, à part se chauffer et s'éclairer, ça ne sert à rien du tout. Donc, il y a un couple énergie-matière. Et effectivement, là, on va retomber. Ce n'est pas les journaux, la télé. La télé vous fait des milliers d'heures là-dessus. Ce n'est pas la peine que je perde une seconde là-dessus. Et qu'on récupère les métaux, et qu'on récupère les papiers, qu'on récupère les plastiques, et qu'on récupère le verre, et qu'on récupère les papiers et les cartons, et qu'on recycle les déchets du bâtiment. Et tout le reste. Donc, il y a ce côté. Je ferai à ce propos deux remarques. La première remarque, c'est la suivante. Si on veut que les citoyens participent à récupérer au mieux l'ensemble des matériaux, il faut en même temps, à mon avis, que le pays dispose des outils de recyclage et de traitement de ces matériaux. Il y a comme une incongruité à rassembler des tonnes et des tonnes de papier, de plastique, de verre et tout, et d'en prendre en même temps qu'on n'a plus d'industrie du verre, qu'on n'a plus d'industrie du papier ou qu'on n'a plus d'industrie du plastique et qu'on remplit des bateaux qui vont aller se faire recycler ailleurs. Je pense qu'il y a un couple entre produire et consommer et recycler, et je pense que le citoyen serait mieux à l'aise dans un système où il saurait que le pays n'est pas devenu un pays complètement virtuel, doté de sociétés de services puissants, mais aussi un pays qui a gardé un certain nombre d'objets, d'unités de production pour produire ses propres déchets. Je ne suis pas sûr que ce soit très, très à notre honneur et qu'on soit très, très fiers du circuit du Clémenceau pour qu'il aille se faire désosser ailleurs, alors qu'on l'a haussé, autant le désosser. Hein. Bon. Mais bon, c'est comme ça. Alors, deuxièmement, les prix des matériaux, évidemment, on objecte toujours l'économie. Ah, bien sûr, la loi du marché, bien sûr, la loi de l'économie, bien sûr, mais il faut savoir où on est. Est-ce qu'on est en train de sauver la matière de la planète pour en avoir encore, ou est-ce qu'on est en train de faire du business? Alors, si c'est pour sauver la planète, moi, je pense, par exemple, qu'il pourrait y avoir... Il y a 6 mois, si vous aviez un caddie en cuivre... si vous aviez un caddie en acier, on vous le volait parce que ça avait une valeur inestimable. Regardez, couper les câbles des TGV de partout, on piquait tout. Parce que le fer était... Mittal avait fait monter le fer à des prix invraisemblables. Et puis tout d'un coup, avec la crise, le fer ne vaut plus rien. Alors donc, à quoi vous recyclez du verre aujourd'hui? Ça se vend très bien. Vous recyclez du verre demain, ça ne sert plus à rien. Je pense qu'il y a besoin d'un organisme de régulation, une banque des matières premières pour que le pays garde en stock. D'ailleurs, ce n'est pas une idée spéciale de Navarro. J'ai vu l'autre jour que certains pays de l'Est ont mis l'embargo sur tous les déchets de la déconstruction des usines triomphantes de l'Empire soviétique parce que c'est un trésor de guerre et qu'ils savent que ce fer se vendra très cher dans quelques années. Donc là, il y a un couple produire-consommer en termes de matière que je trouve pour le moins mal me plaît pas, ça me plaît pas. Bon, c'est pas parce que ça me plaît pas que ça changera grand chose, mais c'est comme ça. Alors, ensuite, il y a les valorisations en agriculture. Bon, là, je vais passer assez vite. C'est revenir un petit. On a cru beaucoup au retour des composts. Alors, le compost, c'est bien. On nous parle beaucoup de chacun faisant son petit compost dans son petit coin, pour son petit jardin, dans son pavillon. Ma part, connaissance, tout le monde n'est pas en zone pavillonnaire. Et par contre, Bonduelle, quand ils vendent des petits pois, il insiste bien pour dire qu'il n'y a pas eu de compost hein, dans les petits pois. Vous ne vous trompez pas, hein, c'est des vrais petits pois Bonduelle, il n'y a pas de compost. Hein. Il faut faire attention. Il y a aussi beaucoup de poésie. Mais moi, je crois beaucoup au compost. Je pense que c'est un bon amendement, à condition qu'il soit bien fait. Et je pense que depuis 30 ans, j'en parlerai tout à l'heure, les techniques ont beaucoup évolué. Et puis, bon, on peut structurer les paillages, tout ça. Ce n'est pas forcément obligé d'abattre des arbres pour avoir un peu de paillis autour de l'arbre. D'ailleurs, après qu'on ait eu enlevé les feuilles mortes pour les brûler, alors qu'elles auraient pu servir à faire... Voilà. Alors... L'alimentation. Alors là, il y a 10 ans, on aurait fait un tabac sur ce sujet avec tous les déchets de la restauration, tous les déchets d'abattoir, tous les déchets de laiterie qui vont alimenter toute notre agroalimentaire, tous nos élevages, tout ça. Bon, c'est vrai qu'avec le poulet à la dioxine, la crise de l'ESB et tout ça, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a mis pédale douce sur les transferts des déchets vers l'alimentation animale. Avec une petite touche un peu triste quand même, si j'en crois ce que certaines informations me donnent à la télé, il y a peut-être du transfert carrément dans l'alimentation humaine dans certains quartiers, dans certaines zones. Ça me paraît beaucoup plus dramatique. Quand j'apprends par exemple ce que les cantines scolaires, tout ça, rejettent comme aliments non consommés pour des problèmes d'hygiène, là il y a un problème à regarder de près. C'est hygiène et société, je dirais. Hein. Est-ce que l'hygiène peut autoriser des destructions systématiques de milliers de kilos de viande, tout ça, sous des prétextes qui sont uniquement administratifs la plupart du temps, alors que des gens... là, on n'est pas clair. On n'est pas clair. Alors, c'est bien beau l'hygiène, moi aussi, je me lave les mains de temps en temps, mais enfin, bon. Je finirai sans savoir. Bon, alors après, ben évidemment, si on n'a pas pu les valoriser là où on a pu les valoriser, ben il ne reste plus qu'à les éliminer et à s'en débarrasser. Alors s'en débarrasser, ben, on peut les brûler pour le plaisir de les brûler. On peut les modifier chimiquement, on peut les modifier biologiquement ou on peut finalement les enfouir. Alors, ça m'amène à quelques commentaires. Premier commentaire. Il faut se persuader, et là c'est mon idée, il faut se persuader que nous disposons actuellement dans les pays, dans nos pays, et en France en particulier, et peut-être plus en France des fois qu'ailleurs, d'un arsenal de technologies de très bon niveau et de très haut niveau. Et que la France est un pays qui est tout à fait capable d'assumer toutes les tâches technologiques nécessaires. Et que ce n'est pas forcément nécessaire d'inventer. D'ailleurs, depuis que l'homme existe, les concepts à mettre en œuvre pour traiter les déchets n'ont pas changé depuis la nuit des temps. C'est où je le récupère, où je le brûle, où je le mets dans un coin. Quoi. On n'a rien trouvé d'autre depuis que l'homme existe. Hein. La deuxième chose dont il faut se persuader, c'est qu'on a toujours nécessité d'avoir des chaînes de traitement. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer, il n'y a pas, là, à part le trou où on mettrait tout dedans, toute opération de tri, dès que le déchet est un peu complexe, nécessite des chaînes, c'est-à-dire plusieurs opérations successives. Et troisième difficulté, des choix multiples. Et c'est là que le problème de la société devient important. C'est-à-dire que pour le même déchet, on a plusieurs possibilités. Et alors, on pourrait discuter et faire une conférence que sur ce problème du choix. Hein. Quels sont les éléments du choix? Est-ce que c'est la rationalité économique? Est-ce que c'est l'impact écologique? Est-ce que c'est la facilité technologique? Il y a tout un tas d'éléments. Ce que moi j'ai constaté, parce que nous avons constaté, premièrement, c'est que lorsqu'il n'y a pas beaucoup le choix, prenez le verre. Pour l'instant, à part faire du verre avec le verre, il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé quelque chose de vraiment différent. Eh bien, ça marche. Ben, on a du verre, on fait du verre. Papier, pareil. Papier, ça commence à peut-être le brûler, ce serait peut-être mieux que de le recycler. Ça commence à discuter. Mais là, quand vous arrivez à des objets riches, les objets riches, c'est quoi? Ce sont les matières plastiques. Ce sont les matières plastiques, les caoutchoucs, par exemple, pour donner deux exemples. Eh bien, on a tellement de possibilités. Moi, c'était mon sujet d'examen favori, les recyclages du caoutchouc. On arrivait à 18-19 possibilités de recyclage pour le caoutchouc, en théorie. Après, il fallait passer ça à la moulinette des trucs. Donc, quand on a le choix, y en a qui disent abondance de biens ne nuit pas, voilà un cas où abondance de solutions nuit. Hein. Et socialement, on n'arrive pas à se décider. Est-ce qu'on va brûler les plastiques? Est-ce qu'on va les trier? Tout ça. Sans compter qu'on rajoute encore des problèmes de dogme. Est-ce qu'on doit faire des produits recyclables? Ou est-ce qu'on devrait faire des produits biodégradables? Est-ce que le plastique, sa vocation, c'est de disparaître dans la nature via la biologie? Ou est-ce que c'est de rester plastique et d'être récupéré? Et tout ça, ce sont des problèmes très compliqués. Donc, ce problème des choix multiples, il est important. Et bon, on verra à la fin comment on peut s'en sortir. Et puis, effectivement, éliminer et valoriser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut éliminer? Est-ce qu'il faut valoriser? Eh bien, il faut faire des éco-bilans. C'est-à-dire qu'il faut, avoir le courage de mettre tout sur la table et de regarder dans quel des cas. Il y a des fois des évidences, c'est que certaines valorisations coûte en environnement, alors depuis qu'on parle du carbone, c'est encore pire, mais coûte en taxe carbone, si j'ose dire, beaucoup, beaucoup plus cher que l'élimination. Hein. Que ce soit au niveau des emballages, que ce soit au niveau de tout un tas d'autres produits. Hein. Et que donc, il faut avoir le courage de... Alors, évidemment, l'éco-bilan, c'est bien facile sur le, pour le technicien, c'est un peu plus compliqué lorsqu'il faut faire mettre des coefficients, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on privilégie par rapport à quoi on privilégie? C'est là qu'il y a un débat public. À l'école, quand vous êtes dans une classe, les maths coefficient 12, le français coefficient 3, tout ça, alors tout le monde accepte, c'est réglé. Mais si vous dites dans un débat d'éco-bilan, l'impact sur la couche d'ozone coefficient 6, l'impact sur la santé humaine coefficient 2, bon, mais c'est fini, on est parti pour 10 ans de discussion. Hein. Donc il y a une discussion sur les... coefficients, c'est-à-dire sur les priorités, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire, qui fait partie du grand débat social que la société, disons, durable devra, laquelle a commencé à engager et qu'elle devra poursuivre. Alors, j'en arrive à ma conclusion par rapport au développement durable et je vous répéterai un petit objet qui est tout à fait trivial, puisque moi, je me rappelle avoir créé l'association... Pour le développement durable entre trois écoles d'ingénieurs à Lyon, Saint-Étienne et Grenoble, bien avant que le ministère prenne ce nom, dans la risée générale d'ailleurs, à l'époque. Et on disait, voilà, ce qui est important, parce que si vous prenez la formation d'un ingénieur, quand moi, ma génération, elle a quand même déjà de la bouteille, nous, on a fait rien de tout ça, on a fait de la science à haute dose, hein. À un moment donné, il y a des profs qui ont dit « Ah, il faudrait qu'ils fassent quand même un peu de social parce qu'ils vont aller dans des usines. Donc, quand ils vont aller en stage, qu'ils vont rencontrer des ouvriers, il faut qu'ils apprennent à jouer au foot avec les ouvriers, il faut qu'ils soient sociaux. » Après, on a dit « Ah, c'est qu'ils, des fois aussi, ils ont des comptes à faire, alors il faut qu'ils apprennent l'économie, tout ça. » Et puis après, on a dit « Attendez, non seulement il faut qu'ils fassent de la société et de l'économie, mais il faut aussi qu'ils fassent de l'environnement. » Hein, c'est-à-dire qu'il soit propre, tout ça. Alors ça date des années 80-85. Hein, et c'est encore pas rentré dans toutes les écoles. C'est même loin d'être dans toutes les écoles. Donc, ce mélange-là, alors qu'il nous amène à concevoir une société qui soit durable, c'est-à-dire viable, équitable, vivable, tout ça. Bon, eh bien, voilà, il faut la faire. Alors, passons sur l'environnement. Déchets et environnement. Déchets et environnement, bon... Il n'y a pas photo. Dans les critères d'environnement, il y a la nécessité de lutter contre l'épuisement des ressources non renouvelables, non recyclables, c'est-à-dire en fait le pétrole, le charbon, le gaz et tout le reste. Valorisation énergétique, c'est la réponse. Il faut lutter contre l'épuisement des ressources non renouvelables mais recyclables. C'est les métaux, c'est les matières premières. Recyclage des métaux et des matières, ça à mon avis, ça ne se discute pas. L'épuisement des ressources renouvelables. C'est vrai qu'on voit que même ce qui est renouvelable, la forêt, la biomasse, tout ça, animal, biodiversité, tout ça, bon, ben, c'est une gestion des déchets biomasse. Quoi. Il y a une gestion biomasse des déchets. Je pense que l'ADEME a un secteur qui s'en occupe tout à fait avec force. Et puis, il y a l'épuisement de l'espace. Bon, ben, c'est ça, on ne va pas mettre des décharges à tous les coins de rue, on ne va pas laisser des dépotoirs s'installer partout. Donc, la réponse des technologies à tous ces facteurs n'est pas très compliquée. Ensuite, vous avez les pollutions et les nuisances. Alors, si vous faites la liste des grands problèmes de pollution et de nuisances qui agonisent la planète, vous retrouverez l'effet de serre avec le réchauffement climatique. Ça, alors, là, on parlait que j'arrête. Vous avez la destruction de la couche d'ozone, vous avez la toxicité pour l'homme, l'écotoxicité, l'acidification des lacs par les pluies acides, les formations de photooxydants, l'eutrophisation des milieux aquatiques, le stockage et la gestion des déchets, la radioactivité, les pollutions thermiques, le bruit, les odeurs. Voilà, j'ai pris la liste exhaustive de tous les sujets d'impact de pollution et de nuisance qui ont atteint un niveau international. Alors les déchets, ben, ils apparaissent à deux niveaux. Premier niveau, le stockage et la gestion des déchets est un impact négatif sur l'environnement. Donc la maîtrise de ces stockages, la réduction des quantités stockées, eh bien, s'impose comme une nécessité. Et la gestion, eh bien, la gestion, c'est qu'à partir du moment où on veut vraiment trafiquer les déchets, les transformer, les valoriser, les modifier et compagnie, eh bien, on retombe dans un circuit industriel classique et on retombe sur les mêmes pollutions que celles qu'on venait de combattre au moment où on a produit les déchets. C'est-à-dire que si vous brûlez des déchets, vous allez tomber... Quand on brûlait des charbons, on faisait des poussières. Ça a quand même tué assez de gens, la combustion du charbon. Ça a quand même fait les pluies acides, ça fait plein de trucs. Eh bien, on brûle les déchets maintenant. Eh bien, on a aussi des fumées qu'il faut traiter. Et on est dans un circuit qui devient très compliqué au point de vue technique parce qu'on n'arrête pas d'aller de déchet en déchet jusqu'à, effectivement, pour arrêter le jeu, un jour, on a inventé la notion de déchet ultime. C'est-à-dire, ça, vraiment, on n'en peut plus, on jette l'éponge. Hein. Le problème, c'est qu'on a conditionné ça à des conditions techniques et économiques du moment, et que le moment n'est qu'un instant qui passe, n'est-ce pas? Et que donc, les conditions techniques et économiques changent beaucoup au cours du temps. Alors, on a perturbé les systèmes, j'insiste pas. On a eu un gros problème de relation entre les déchets et la santé. Ça aussi, ça mériterait à lui seul une conférence, on n'a pas le temps de la faire aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que, effectivement, un certain nombre d'installations de déchets, je pense en particulier à l'incinération, je pense à des décharges sauvages, je pense à des abandons clandestins, je pense à des valorisations hâtives et mal faites, ont eu des effets négatifs sur la santé. Je crois quand même qu'on peut rendre hommage à tout un tas de chercheurs en France et à l'étranger depuis une quinzaine d'années, qui ont quand même, c'est un des problèmes de santé publique les plus difficiles. À mon avis, c'est un des problèmes les plus difficiles parce qu'on est devant la multiplication des agressions, on est devant l'incertitude de ces agressions, du poids de ces agressions par rapport à d'autres agressions qui peuvent s'appeler l'alimentation, l'automobile, le travail et tout le reste. Moi, je crois que pour les grandes technologies, la maîtrise de la santé des citoyens est assurée si, un, les installations sont conformes à ce qu'elles doivent être. Deux, si ceux qui sont chargés de les contrôler, les contrôlent effectivement. Si trois, ceux qui y travaillent font exactement ce qu'ils doivent faire. Et quatrièmement, si on confie à l'homme un peu plus de place qu'à l'automate dans la vie du système. Moi, je crois que la déshumanisation des installations, le fait qu'on a toujours confié à des capteurs et à des caméras les soins, dans ce cas, pour le reste, je ne suis pas sociologue, je ne jugerai pas, mais pour ce qui est des décharges, ça vaudrait le coup qu'il y ait plus de gens concernés. Je ne parlerai pas plus longuement des déchets ménagers, parce qu'on vous rabat les oreilles. Le seul problème, avant que j'arrive à ma conclusion, le seul problème, c'est qu'on a énormément de solutions possibles. Toutes les solutions peuvent être bonnes, à condition d'être mise en œuvre dans des conditions correctes et surtout adaptées aux circonstances. Je crois que l'erreur, c'est de croire qu'il y a la solution et que cette solution s'impose. Il y a autant de solutions qu'il y a de schémas. Hein. Il y a autant de solutions qu'il y a de groupes sociaux. Et comme disait très justement Alain Mogard hier soir, c'est pas en changeant les maisons qu'on changera les gens. Et les gens ont aussi à changer à l'intérieur des maisons. Hein. Alors, pour conclure sur ce que peut être une gestion durable, je dirais, des déchets. Je me suis inspiré d'un article qu'a écrit René Guillet, là, qui est un monsieur très connu dans le monde du déchet, qui a publié cet article dans les Annales des Mines. Et j'ai trouvé, quitte à ne pas paraître poète et à paraître trop pragmatique, j'ai y adhéré, puis je vais y ajouter ma petite touche. La priorité pour les citoyens, c'est d'éliminer les déchets. On ne peut pas les laisser. Regardez Naples et compagnie, dès qu'ils s'accumulent sur le trottoir. Donc le premier grand souci, c'est s'en débarrasser si on ne veut pas crouler sous la montagne. Bon. La deuxième étape consisterait à faire une élimination écologique, plus écologique. C'est-à-dire plus écologique, je dirais plus sanitaire. C'est-à-dire prendre en compte au moment de l'élimination les différentes difficultés qu'il peut y avoir entre le système et les producteurs de déchets. C'est très difficile à mettre en œuvre dans certains cas. Je le dis souvent, mais je serai pas forcément capable de proposer un outil pratique et adapté. Mais actuellement, pour les déchets de nos villes, et pas que de Paris, mais de nos villes, je suis persuadé que éviter d'y mettre un certain nombre de choses serait plus utile que d'essayer de trier ce qu'on y a mis. C'est-à-dire que si on avait la possibilité de faire sortir de ce système tout ce qui le pollue et qui le tue, si j'ose dire, ce serait beaucoup plus utile que de privilégier la matière utile. Mais faire des réceptacles au coin de rue avec tous les déchets toxiques de l'année, ce n'est pas forcément facile. Alors, je me suis trompé. Voilà. Le troisième stade, je pense qu'on y est. On y est au troisième stade, c'est le recyclage. C'est-à-dire que progressivement, je l'ai ébauché plusieurs fois, que ce soit en énergie, que ce soit en matière, il faut que l'industrie du recyclage devienne une industrie à part entière, une industrie qui a effectivement quand même... qui est un service public, voilà, j'ai dit le mot, c'est-à-dire qui est un service public, qui n'est pas forcément une entreprise comme les autres. D'ailleurs, les déchets n'ont jamais été des produits comme les autres. Les déchets sont l'envers du décor, et je ne sais pas s'il vous est arrivé de regarder une pièce de théâtre des coulisses, vous n'avez pas rien à voir avec la pièce de théâtre quand on est sur la scène, dans les salles spectateurs. L'envers du décor, c'est quelque chose d'autre. Et l'industrie du déchet, par exemple... Quand on veut récupérer les métaux précieux qu'on a mis sur un pot catalytique de voiture, il y a quand même un problème, c'est qu'on a demandé à des ingénieurs de fixer ces métaux de façon impressionnante sur la matrice pour qu'ils puissent être catalyseurs. Et quand on veut jeter le pot catalyseur, on demande à d'autres déchets de le décoller rapidement pour le récupérer. On voudrait que la voiture elle se démonte par clipage, mais on ne voudrait pas qu'au premier choc, tout vole en éclats. Donc voilà, on voudrait des clips à la place des boulons, mais on voudrait que ça soit très robuste. Donc on est toujours entre... on est toujours en train de balancer entre ces deux trucs. Et puis, pour terminer, évidemment, l'idéal serait les non-déchets. Alors, les non-déchets, ben, c'est ça qui va nous amener à une approche économique. Je l'ai quand même bien abordé en vous expliquant ce qu'on pourrait faire en matière de stratégie, tout ça. Ce qui est plus important, c'est au niveau des choix que la société. J'ai participé l'année dernière à une conférence citoyenne, d'ailleurs en Île-de-France, organisée de façon très, très sérieuse, où un panel de citoyens de votre région, pendant plusieurs dimanches, a travaillé sur qu'est-ce qu'ils voulaient en matière de traitement de leurs ordures. Et bon, je ne vais pas vous répéter ce qui s'est fait. Des gens comme moi venaient parler 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, repartaient. Ils ont fait venir des gens de partout. Ils ont réfléchi, travaillé avec des méthodes connues. Et en fait, ce que j'ai retenu de leurs conclusions, il y en avait plusieurs, mais ce que j'ai retenu de leurs conclusions, c'est qu'ils pouvaient bien faire tous les efforts qu'ils voulaient en matière de gestion de leurs déchets. Ils n'étaient pour l'instant que très peu maîtres de ce qu'ils étaient amenés à pouvoir acheter en amont avant de faire des déchets. Et autrement dit, c'est vers l'amont qu'il faut se retourner, c'est-à-dire vers la consommation et la production, avant de savoir qu'est-ce qu'on va faire des poubelles. Et pour ça, il faut régler un certain nombre de problèmes. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je n'insisterai pas parce que je vois que l'heure tourne. 5 minutes ? Que leur tourne, il faut quand même un petit peu se détacher de cette notion du sale et de l'impur. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Je ne suis pas pour qu'on développe la crasse en termes, qu'on fasse de la crasse un signe de valeur, mais je rappellerai simplement que les plus beaux diamants sont ceux qui ont des impuretés, parce que ça les colore et ça donne une valeur inestimable au produit. L'histoire de la non-valeur. Si c'est de la matière et si c'est de l'énergie, ça a la valeur de la matière, ça a la valeur de l'énergie, ça rentre dans les systèmes économiques avec sa valeur. Et là, je crois qu'il y a, en termes de réglementation, des suspicions, et même en termes de comportement social, des suspicions que moi, je trouve souvent injustifiées. On est un peu dans le même cas que l'insertion sociale de quelqu'un qui a fauté. On est plus exigeant avec lui que quelqu'un qui n'a jamais fait l'andouille. Et pourtant, quelqu'un qui a fait une faute, à un moment donné, n'avait jamais fait l'andouille. Un troisième point, c'est la noblesse de l'activité. La noblesse de l'activité, alors là, je vais presque parler en mon nom personnel pour une fois. Tant qu'on continuera, et ça c'est quelque chose qui m'a désolé, je vous le dis à l'ADEME, je le dis au ministère de l'Environnement, je le dis à tout le monde, ça m'a toujours désolé depuis 1973. Chaque fois qu'on a une initiative sur les déchets, on cherche à voir comment on peut refourguer tous les cas sociaux, tous les hein, alors que ce soit... Alors pour tuer des poulets dans la Drôme, il faut un CAP de boucher, et puis pour recycler des pneus qui risquent de réchapper des pneus qui risquent de tuer 30 ou 40 personnes, il faut être en déséquilibre social. Et bien, tant qu'on ne dira pas que les métiers du déchet... Et vous savez que c'est valable pour l'université, hein, je vous le dis au passage. Bon. J'ai eu la Légion d'honneur comme du déchet, c'est la seule. Hein. Ça justifie ce qu'on veut dire, on la donne à tout le monde. Quoi. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est quelque chose de très, très important. Et là, il y a un travail social, je pense que l'ADEME, le ministère pourrait s'y intéresser. Il faudrait aussi dissocier un peu la communication et l'information. Je pense qu'on est beaucoup trop sous l'emprise de communication, de messages destinés à faire passer une stratégie et non pas d'information. Hein. L'information, c'est compliqué dans ce domaine. Ça suscite le débat, ça suscite la formation, ça suscite... On a trop appelé les marmottes, les ours et tout au secours du déchet. On n'en a pas besoin. Ce qu'il faut, c'est comprendre de quoi il s'agit. Il faut enfin aborder des problèmes majeurs, comme le problème du jetable et du réparable. Hein. Moi, je veux bien qu'on désosse tout. Mais à ce moment-là, qu'on ait des appareils qui se réparent, qu'on ait des appareils qui se... Alors, est-ce que peut-être... c'est bien de faire des produits qui sont éco-conçus, qui sont économes en énergie, économes en matière et tout, mais si c'est pour les jeter tous les 3 mois, et si c'est pour avoir, chaque fois qu'une vis qui foire, la moitié de la voiture a changé... Je ne vois pas où est l'intérêt. Alors là, tant qu'on n'aura pas réglé le problème du renouvellement du parc, alors peut-être que l'idée de transformer, ça a été évoqué à propos du Vélib et bientôt de l'Autolib à Paris, peut-être que l'idée de passer du stade de propriétaire à celui d'utilisateur est une voie qui s'approfondira beaucoup dans les années. Pour nous, en termes de déchets, ça nous rendra un grand service. Parce que le jour où les produits sont loués et non pas vendus, je suis sûr que la réparation... l'échange standard prendra un essor considérable. Par contre, dans tous ces cas-là, hein, il faudra veiller et à quelque chose dont on ne pense pas, c'est que le passage d'un type de société à un autre, d'un type de moteur, tout le monde, il faudrait des voitures comme ci et pas comme ça, mais le passage de comme ci à pas comme ça, c'est une révolution technologique. C'est des milliers, des centaines de milliers d'emplois qui sont menacés. C'est des usines qui ferment, c'est d'autres usines qui s'ouvrent. Donc, ce n'est pas uniquement « je fais le bon choix ». C'est j'assume les conséquences du bon choix que je viens de faire. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il faudra, j'ai presque fini, il faudra que l'on cesse de considérer qu'on est les riches et que donc les riches, par définition, envoient leurs déchets aux pauvres, lesquels envoient leurs travailleurs en retour. Hein, à chacun sa merde, comme on dit. Hein, et on n'a pas besoin d'un grand esprit communautaire dans ce domaine. Hein, pour s'apercevoir qu'on doit être adulte et majeur et ne pas se décharger sur des esclaves. Bon, c'est bien, Mère Teresa, c'est bien, je suis d'accord avec elle, mais ce n'est pas les Mères Teresa qui sauveront le problème du déchet. Elle sauvera quelques dizaines de personnes sur une décharge, c'est tout. Elle ne sauvera pas la société. Et enfin, pour terminer, eh bien, les mécanismes du choix citoyen, puisque je vous ai dit qu'on a beaucoup de choix, puisque je vous ai dit que c'est compliqué, il faut... progressivement, que l'implantation des systèmes, enfin il faut, je propose, puisque je n'ai pas le pouvoir, je peux proposer, je propose que l'implantation des systèmes ne se fasse pas par des questionnaires, des référendums du type oui ou non, c'est-à-dire voulez-vous l'usine d'incinération ou pas. C'est qu'on propose 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 60 solutions, il y en a autant qu'on veut, pour autant que des partis politiques pour les européennes. On propose des solutions. Et puis, on met en route un mécanisme et les gens choisissent celui qu'ils veulent. S'ils ont pris le plus mauvais, c'est leur problème. Mais pourquoi vouloir leur imposer un système qu'ils ne veulent pas? Parce qu'effectivement, une usine d'incinération dans Paris, ça peut se justifier. Bon, moi, je la justifierais, même si... Ouh, je sens que ça, hein. Et par contre, réunir tous 100 000 habitants dans une rase campagne où il y a en déshérence pour faire une énorme usine qui est plus grosse que l'ensemble des bourgs réunis, ce n'est pas forcément très intelligent. Hein. Donc, il faut arrêter de faire une guerre des techniques. Il faut développer le choix citoyen. Voilà. Pour ma part, moi, je ferai le choix de me taire maintenant. Merci bien.
Alors, nous allons passer aux questions. Oui. Madame, sur la gauche. Allez-y.
Bonjour, je suis Caro Bio, je suis journaliste citoyenne et j'ajoute écologiste humaniste. Donc je remercie beaucoup Monsieur Navarro de la noblesse de son activité, tout ce qu'il a fait. Et il nous a renvoyé à nous-mêmes en disant les toxiques, les déchets des industries repartent chez les particuliers dans vos maisons et dans vos poubelles. Nous pouvons éventuellement être producteurs de déchets aussi. Et puis si on arrêtait de jeter pour faire moins de déchets. Alors est-ce que je peux me permettre un passage à l'acte ? C'est-à-dire de vous proposer, cet été, l'été, il y a beaucoup de déchets que nous produisons. Est-ce que vous vous souvenez par quoi l'été, on est encore plus producteur de déchets ? Par les jetables. Parce qu'on fait beaucoup de pique-niques. On fait plein de choses conviviales, on est à la plage, on est en famille, on est partout. Est-ce que vous y pensez déjà à tout cela ? Alors il y a un événement important qui est le 21 juin au parc du château de Versailles, il y a un grand pique-nique bio. Vous êtes tous conviés, vous venez avec vos mets gourmets. Et Caro Bio vous propose une chose, c'est pas de venir avec du plastique mais avec du coton. Et de ne pas venir avec vos jetables, mais tout simplement, alors M. Navarro va me dire si c'est intelligent ou pas, de venir avec de l'inox que vous ramènerez à la maison, la même chose en couvert et la même chose en plat. Et tout ça, imaginez-vous les centaines de personnes, les milliers de personnes cet été où vous allez tous manger ensemble en famille et partout en France à faire des voyages. Imaginez-vous, ça sera la même assiette du début à la fin de l'été, les mêmes couverts, c'est 25 ans qu'il fait le tour du monde de couverts. Alors, il va nous dire, et ça sera ma question, est-ce que l'inox est une bonne solution ? Parce que le plastique, j'en suis un petit peu revenue à cause du bisphénol A et toutes ces choses terribles. Alors, il restera, parce que je pensais que ça allait faire zéro déchet. Mais évidemment, il est bien réaliste, et puis il est tellement sympathique qu'on a envie de se dire, bah oui, il a raison, moi je suis une utopiste. Voilà, il restera cela du pique-nique. Parce qu'évidemment, je vais essuyer la bouche, et puis je vais essuyer l'assiette avant de la remettre dans le sac. Mais imaginez un sac de pique-nique où il n'y a que ça. Pour chacune des personnes. Voilà ce que je vous propose. 21 juin au château de Versailles. Venez voter pour ce pique-nique durable et enfin, pour tout le reste de votre vie, ben, ne plus avoir de gobelets, de plastique et tout ça. C'est au bord du canal, c'est tout simplement. Et M. Navarro est bienvenu. Merci infiniment.
Je ne pourrais pas aller le 21 juin parce que mon bilan carbone serait détestable. Je suis dans la Drôme, alors. Mais je suis avec vous de tout cœur. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que vous donnez là, l'exemple des gobelets, tout ça, illustre ce que je voulais dire de faut arrêter de dire il y a les c'est comme les molécules. Ça, c'est une réaction de chimiste. Les gens voudraient qu'il y ait les bonnes molécules et les mauvaises molécules. Je suis désolé de vous dire que toute molécule de chimie, quelle qu'elle soit, c'est Janus. Elle est bonne à un moment et mauvaise à un autre. Prenons le cas de la bouteille, par exemple, en plastique pour mettre de l'eau, par exemple. Si je fais un peu ça, là, ce n'est pas forcément nécessaire. Il pourrait y avoir une carafe, des verres et tout le reste. Bon. Mais si c'est pour monter, faire une randonnée en montagne et monter un litre d'eau pour boire, et si on tient vraiment à avoir l'eau dans du verre, il faut être un peu idiot pour monter un kilo de verre pendant toute la journée pour rien du tout. Il vaut mieux monter 10 grammes de plastique, hein, point de vue santé. Et donc, si c'est pour faire des unidoses de médicaments protégés de la dégradation pour des populations déshéritées, je ne vois pas pourquoi on leur mettrait ça dans des feuilles de banane. On peut très bien les mettre dans du plastique. Donc, il faut arrêter d'être... Il faut prendre les problèmes comme ils sont. Et il ne faut pas de religion. Il faut de l'action. Ben oui, je vous donne le feu vert.
Question milieu. Vous avez abordé le problème des pharmacies. Il y a des difficultés pour les données, mais comment est-ce qu'on les traite ? Tous ces médicaments qui ne sont pas utilisés, vu qu'on a toujours des médicaments qui restent.
Moi, je ne vous parlais pas des médicaments qui restent. Je vous parlais des usines qui fabriquent les médicaments. Alors, pour les médicaments qui restent, qu'il y avait un système... Moi, je ne sais pas, il y a les gens de l'ADEME, là, ils sont... Vous n'avez pas de solution ? Il faut les ramener à la pharmacie ? Hein ? Alors, la solution, c'est l'incinération. J'écoute, je traduis, hein. Dans ce que je vous disais du pur et de l'impur, tout ça, il y a une partie de ça, C'est-à-dire qu'on a peut-être tendance, dans certains cas, à considérer comme trop rapidement obsolètes des déchets qui ne seront pas forcément obsolètes. Et que c'est idiot de dire où tous sont bons, c'est pas vrai, il y en a qui sont sûrement pas bons, et tous sont mauvais, c'est aussi bête. Et il faudrait qu'on ait cette intelligence de trier là-dedans ce qui est bon et ce qui est mauvais, et à qui on va le donner, ce qui est bon pour un tel n'est pas forcément bon pour un tel, et ainsi de suite. Et vous ne pouvez pas avoir un objet comme le déchet qui comprend des centaines de millions de combinaisons chimiques possibles, imaginables, avec des degrés différents et tout. Vous ne pouvez pas traiter ça avec des lois uniques. C'est ça que... Bon. D'autant que, c'est un côté passionnant, les solutions sont volatiles. Moi, combien de fois au labo, on a étudié des devenirs pour des déchets de la sidérurgie. Quand on a eu fini l'étude, la sidérurgie fermée. On a étudié les bouts de peinture pour les cabines de peinture dans l'industrie automobile pendant 5 ans. Quand on a eu fini, ils ne peignaient plus au pistolet, ils peignaient au trompé. Donc, on est sans arrêt pris dans un engrenage d'évolution. Le déchet, c'est la vie. Hein? Voilà. Puisque la vie, c'est... Puisque la mort, c'est le troisième stade de la vie. On peut dire ça comme ça. Non, de la naissance, pardon.
Mademoiselle. Bonjour. Moi, j'ai travaillé sur le recyclage des bouts de station d'épuration. Alors, ce qui m'a frappé quand j'ai fait mon étude, c'est le contact avec certaines associations comme Pas dans mon jardin. Les bouts de station d'épuration, c'est-à-dire que toutes les eaux que vous utilisez sont collectées pour être rejetées ensuite dans la nature. Et tous les déchets que vous produisez sont nettoyés par des bactéries, ce qui produit après des boues. Ces boues-là sont principalement incinérées. Et imaginez quelle énergie fondamentale il faut pour brûler de l'eau. Moi, je me posais la question. Moi, je faisais de l'épandage de bouts de station d'épuration ainsi que du compost. Et ces associations me disaient « Mais nous, on ne veut pas de vos stations d'épuration ni d'épandage parce que ça sent mauvais. » Alors, ça sent mauvais, certes, mais par contre, ils n'étaient pas contre le fait qu'on épande des engrais. Alors que les engrais ainsi que les fumiers de certains animaux sont plus toxiques que les bouts de station d'épuration qui, elles, en plus, permettent la régénération des sols contrairement aux engrais. Est-ce que vous pensez que comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces mentalités-là? Et est-ce que vous pensez qu'un jour, les bouts de station d'épuration pourront servir à... enrichir le sol pour des produits alimentaires pour l'homme? Parce qu'actuellement, ça s'est cantonné essentiellement que pour nourrir des animaux. Merci.
Moi, j'ai d'ailleurs tenu tout à l'heure à peu près le même discours de vous. J'ai pris les petits pois. Enfin, je ne sais pas si bon duel, il ne faut pas qu'il m'attaque au tribunal, mais bon, je m'en fous. Je suis de votre avis. Mais là, on arrive à ce problème de société. Alors, il n'y a pas qu'un problème de société. Il y a un problème, déjà, de qualité de la station d'épuration. Quand je disais tout à l'heure, il faut beaucoup de monde, il faut de l'humain pour gérer les systèmes. La France, en quelques années, dans les années 60, je crois, entre 50 et 70, on peut dire, en gros, elle s'est dotée de milliers et de milliers de stations d'épuration dans tous les coins de France. Hein ? Bon. Pas assez, mais à l'époque, beaucoup. Beaucoup à l'époque. Et qu'est-ce qu'on constatait à l'époque? C'est que la puissance publique est relativement large, on le voit régulièrement, lorsqu'il s'agit de financer de l'investissement, elle est beaucoup plus réticente lorsqu'il s'agit de financer du fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a plus facilement 2 milliards pour faire une station que 1 million pour mettre du personnel dans la station. Parce que le personnel, il va rester 30 ans, il va faire grève, il va vieillir, c'est un vrai problème. C'est quand le béton est vieilli, c'est plus facile à gérer. Donc, les stations ont tous, en grande partie, dysfonctionné. Même les grandes villes ont dysfonctionné jusque dans les années 90, à peu près. 80-90. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bon. Alors, après, on rebelote, on va vivre. Alors, je reviens comme pour l'incinération. Si la station... Bien, s'il n'y a pas d'effluents industriels qui ramènent trop de métaux lourds, par exemple, hein, si la boue de station... Moi, je ne crois pas à l'épandage de la boue brute. Je pense qu'il faut qu'elle soit maturée au préalable. Il faut maturée, voire éventuellement séchée, chaulée. Enfin, il faut quand même qu'il y ait... Il faut du professionnalisme. Hein. Moi, je connaissais un Italien qui prenait du compost d'ordures ménagères et qui a fait une fortune énorme parce qu'il faisait des petits... Il n'en prenait pas beaucoup d'ordures ménagères, juste ce qu'il fallait. Il faisait des petits pots, il mettait plein de bidules dedans et il vendait des pots de 500 grammes, géranium, dahlia, œillet, tout ça, qu'il vendait très cher, hein, qui ne servait à rien. Et par contre, celui qui veut vendre 4 tonnes, 5 tonnes, 6 tonnes aux paysans, lui, il a tout le problème. Donc, il y a un côté... Bon. Donc, il faut trouver... Pour les matières vivrières, genre légumes, tout ça, je crois que ça ne passera pas la barre. Ça en restera dans le, éventuellement le blé, la vigne, ou peut-être pas la vigne, ben alors encore moins. Les arbres fruitiers, c'est limite. Mais la réglementation a été mauvaise aussi. Pourquoi dire il ne faut pas épandre? Moi, j'ai entendu des agriculteurs me dire, pourquoi vous dites qu'il ne faut pas épandre à moins de 50 mètres du mur du domicile. Oui, mais les gens, ils disent, si vous ne voulez pas qu'on le mette à côté de la maison, c'est donc que c'est mauvais. Hein? Moi, le premier colloque que j'ai fait à La Rochelle sur les déchets et les décharges, puisque au départ de ma carrière, je me suis beaucoup occupé des décharges, j'avais animé la première table ronde de ma jeune carrière, avec des agriculteurs, et on expliquait, on était tout contents, c'était l'enraide à l'époque triomphante, et on était tout contents d'expliquer tout ce qu'on faisait pour que les oiseaux ne viennent plus manger, pour que les lixivias soient récupérés, pour que le biogaz soit récupéré, pour qu'on recouvre tous les soirs. Enfin, on était dans la joie des chercheurs qui découvrent tout, et dans la salle, quelqu'un s'est levé et m'a dit, bah, monsieur Navarro, si vous prenez tant de précautions, c'est bien que c'est dangereux. Et c'est ça un peu le fond de la question, c'est que l'excès de précaution dans le traitement crée en même temps la suspicion chez le consommateur. Oui. Oui, c'est juste ici. S'il n'y a pas d'industrie qui a mis des métaux lourds à côté, je ne sais pas.
On va passer à une autre question. Sinon, le débat peut continuer comme ça. On va laisser la parole, s'il vous plaît. Et ben après ça.
En à peine 5 minutes, nous avons tourné autour d'un mot qui, pour moi, est...
Donc, autour de... En 5 minutes, nous nous sommes tournés autour de quelque chose que je peux résumer par convaincre les utilisateurs. Et le convaincre des utilisateurs, il faut donc, en amont de ça, faire des études scientifiques et techniques en béton, c'est-à-dire quelque chose qui tienne la route. Les métaux lourds dans la boue, tout ce qui tourne autour donc, de ce qu'on peut rejeter dans l'air, etc. Mais il y a aussi quelque chose, il y a la lourdeur de l'administration et quelquefois la lourdeur des utilisateurs. Pour avoir lancé un matériau que certains d'entre vous connaissent bien, qui est le Pneuson, c'est-à-dire l'association de pneus avec du sol, pour avoir lancé ça en 1973...
Ce ne serait pas vous ?
C'est moi. D'accord. Donc, je sais très bien les entraves, les barricades, les coups de feu dans le dos, dans l'administration. Et finalement, jusqu'à maintenant, donc je suis à la retraite depuis 5 ans, je ne vois pas sortir des recommandations sur le Pneuson, sur l'utilisation du Pneuson dans le génie civil. Et pourtant, même à la retraite, j'en ai construit au moins déjà 3000 ouvrages qui ne se voient pas, qu'on réutilise donc le pneu quasiment en entier, avec quasiment pas donc, de travail manuel donc, sur ce matériau, et qui permet de faire beaucoup d'économies. Et donc, je tourne vers l'ADEME. Je dirais que lorsque l'ADEME fait des réunions, des conférences, il faut que ces réunions-là soient orientées sur les utilisateurs, et notamment donc sur les entreprises. Et ça, c'est quelquefois difficile. Bon,
là, je ne sais pas si j'étais pas dans votre jury de thèse. Non ? À Lyon, non ? En génie civil. Hein ? Bon, c'est pas grave. Ce que dit monsieur est tout à fait vrai. L'introduction de matériaux de substitution. Je n'ai pas abordé ça parce qu'on ne peut pas faire le tour de toutes les questions. Dans le monde économique, soulève des obstacles autres que techniques. Le premier obstacle, c'est la suspicion. C'est-à-dire qu'un produit qui a un passé est suspect. Hein. On exigera de lui des tas de contrôles qu'on n'exigera pas d'un produit qui est censé être... C'est un peu la contradiction du bio. Il suffit de dire bio pour que ce soit bon. Ce n'est pas vrai. Il y a des produits bio qui sont hyper toxiques. Hein. Premier point. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une adéquation entre le marché et le gisement. C'est-à-dire, si vous avez un déchet qui peut rentrer une fonction, par exemple, dans les autoroutes, il faut que la quantité de déchets soit adéquate avec l'ampleur du marché. Si c'est pour mettre un kilo tous les 6 mois sur les routes, ça ne justifie pas. Bon. Ce n'était pas le cas du pneu sol. Et troisièmement, il faut qu'il y ait un deal qui soit passé entre le secteur qui est traditionnellement fourni, comme en fait les papetiers. Les papetiers ont passé un deal entre le papier recyclé et le papier vert, parce que sinon, ça aurait été la guerre du papier. Hein. Donc, il faut qu'il y ait un accord entre celui qui avait le marché et celui qui, avec son déchet, vient remplacer le marché. En général, l'accord est d'autant plus facile à trouver que celui qui vient remplacer le marché est celui qui avait le marché. Donc, comme ça, c'est réglé. Hein. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile.
On va prendre encore 2 questions.
Alors, je voudrais dire une toute petite question, puisque votre communication était tout à fait passionnante et l'intervention de ce monsieur qui était positive. Je vais dire une chose négative à propos d'une société dont j'ai entendu parler, qui s'appelle Areva et qui déverserait des déchets radioactifs dans l'océan, etc., provoquant des choses tout à fait dangereuses. Alors, pouvez-vous
Alors,
nous
en dans,
dire un
dans le texte écrit, j'ai oublié parce que, emporté par l'émotion, je n'ai pas tout dit. Au début de mon texte, celui qui sera diffusé, je pense, la version écrite, j'ai bien écrit que je ne parlerai pas des déchets nucléaires pour 2 raisons. La première, c'est parce que je n'ai jamais travaillé sur ce sujet, je ne vois pas en quoi je serais habilité à travailler, à parler de ce sujet. Et la seconde, c'est parce que c'est une autre problématique, ce n'est pas du tout de la même façon. Par contre, moi, je ne peux pas vous répondre sur ce que fait Areva. J'ai aucune information et je n'ai rien à dire là-dessus. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, mais qui est dans le texte, j'avais fait un petit paragraphe, mais enfin, le temps passant vite. J'avais fait une petite prospective sur les déchets du futur. Et j'avais signalé qu'un des grands déchets qui attend notre société, c'est le démantèlement des centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'à force de reculer l'échéance, Ça va, mais il arrivera un moment où c'est un peu comme les vieilles maisons, on ne pourra pas quand même juste rebâtir, replâter les murs. Donc il faudra bien. Et là, indépendamment du cœur du réacteur, qu'est-ce qui polarise, ou du déchet, ce qui polarise, moi je crois que c'est pas le déchet nucléaire en soi-même qui me fait peur personnellement, hein, mais ça, c'est une avis de citoyen. Par contre, en tant qu'homme du déchet, je dirais banal ou semi-banal, hein, il va y avoir des millions de tonnes de déchets qui ont vu plus ou moins le nucléaire, et qui seront d'autant plus suspectés de l'avoir vu, qui vont nous imposer des stockages, des décharges, qui nos 4% d'ordures ménagères, c'est de la roupie de Sansonnet à côté des masses de béton, de ferraille, tout ça qu'il faudra recycler. Ça, ce sera un grand truc. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que personne n'en a parlé, mais dans les technologies qui sont susceptibles de régler une partie de nos problèmes. La mode est actuellement aux nanotechnologies, c'est-à-dire des choses infiniment petites qui rendent d'infiniment grands services, mais qui feront d'infiniment petits déchets dont on ne sait pas ce qu'ils deviendront. Et ça, c'est intéressant de voir qu'on a d'un côté les millions de tonnes et de l'autre des grammes et des milligrammes qui nous emmerdent. C'est les deux bouts de la chaîne. Donc ça veut dire qu'il faut être optimiste. Il y aura beaucoup de boulot pour mes successeurs. Hein. Mais je crains que des successeurs, j'en ai pas beaucoup, parce que le sujet s'est dilué dans les différentes techniques. Et je pense que je représente la dernière génération des généralistes du système, Les nouveaux généralistes sont des administrateurs du système et les chercheurs sont maintenant... C'est pas une critique. Le sujet a pris tellement d'importance qu'il y a assez de travail pour faire travailler des bios comme biologistes sur le déchet, des chimistes comme chimistes, et ainsi de suite, et que c'est plutôt la pluridisciplinarité qui serait intéressante que la capacité pour quelqu'un d'avoir une approche pluridisciplinaire. D'ailleurs, au niveau de l'école, j'ai eu un échec quand même dans ma carrière, j'ai eu quelques échecs. Un des échecs, c'est que j'avais préconisé, j'avais dit qu'il y en avait marre de, c'était au ministère de l'Environnement à l'époque, il y en avait marre de vouloir créer un enseignement pour les gamins chaque fois qu'il y avait un problème dans la société, parce qu'ils finissaient par avoir des piles de programmes de toutes sortes, et qu'en particulier pour l'environnement et les déchets, ce n'était pas du tout la peine de créer un enseignement spécifique pour les enfants, les déchets en particulier, j'étais prêt à le faire. Vous pouvez prendre n'importe quel cours, n'importe quelle discipline, n'importe quel cours, et vous traitez le déchet dedans. Le géographe peut en parler, le biologiste peut en parler, le prof de maths peut faire des pourcentages, le prof de chimie peut faire des analyses. Chacun peut travailler avec ses gamins sur le déchet. Même le prof de français, il y a dans les Gémeaux, là, le bouquin, de, je ne me rappelle plus son nom, là, celui qui a fait sur la gémellité, là, en bon passant. Bref. Il y a de très, très beaux textes de littérature, y compris même une anthologie de la merde. Hein ?
On va prendre une dernière question, mademoiselle.
Justement, oui, alors justement, moi, je suis étudiante en architecture. Et donc, vous parlez des cours où on peut nous parler de tous ces déchets qui peuvent être recyclés, etc. Nous, malheureusement, on n'en a vraiment pas à l'école. Moi, je me sens très concernée par tout ce domaine de l'écologie. Et je suis à la recherche, en fait, qu'on me donne des réponses à mes questions sur plein de domaines. Et vous avez donné un chiffre tout à l'heure de 40% du BTP au niveau du déchet général. Et c'est vrai que c'est catastrophique. Et aujourd'hui, on multiplie les matériaux, les solutions pour le bâtiment en général. Et tout ça, ça crée énormément de déchets. Et je suis vraiment à la recherche de réponses pour beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce que alors, je peux m'adresser à vous ou pas ? Parce que je ne vais pas pouvoir poser alors, toutes mes
non,
questions.
Non, je vais vous donner l'adresse. L'année dernière, j'ai participé à un projet avec l'école d'architecture de Grenoble qui s'appelait Recyclage et Urbanité. Et donc, avec des étudiants de l'école d'architecture de Grenoble, la ville de Grenoble leur avait confié pendant un an, d'ailleurs, ils l'ont toujours, un espace urbain en pleine ville, hein, où ils ont conçu un quartier construit qu'avec des déchets, avec des vieux containers, ils ont fait des appartements. Ils ont fait un amphi où j'ai fait une conférence avec des parpaings, des palettes, tout ça. Et donc, il faut vous adresser à... Le projet s'appelle Recyclage et Urbanité à l'école d'architecture de Grenoble. Et je dois faire, et là, je suis en retard de 15 jours et je vais me faire engueuler, je dois faire 2 articles pour la revue Recyclage et Urbanité qui sortira, on va dire, d'ici la fin de l'année. Hein ? Je n'ai pas le nom des... Enfin, Archives de Grenoble. Maintenant, vous allez sur Internet et vous recherchez déchets du bâtiment et vous avez absolument toute la liste de toutes les procédures et tout. Ça va être un grand, grand, grand challenge des industries, des BTP que la gestion des déchets de chantier. À la démolition et à la construction. À la déconstruction et à la construction. Voilà.
Alain Navarro, merci beaucoup.